Je suis juste émerveillée et j'ai envie de dire, bah Dieu a préparé le terrain ce matin. Et je pense que le sujet a été clair. L'identité en Christ. Merci. Nous terminons aujourd'hui la série de l'identité en Christ. Qui suis-je ? Telle est la question. Souvent, les enfants qui ont été adoptés cherchent leur origine, leurs parents. Même nous, j'ai vu que maintenant, selon les tests qu'on fait, les tests ADN et tout ça, on se retrouve que peut-être qu'en fait, je suis africaine. Ça se voit pas, hein. Mais intérieurement, j'en suis sûre. Je sais pas. Qui suis-je ? Raymond Pierre nous a parlé du fait que nous sommes des créatures de Dieu, créées à son image et donc choisies. Donc nous ne sommes pas là par erreur. Si tu en doutais ce matin, tu n'en doutes plus. Dieu t'a choisi, t'a créé à son image. Et le fait d'avoir été choisi par Dieu fait de nous des enfants du roi des rois. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc ce qui veut dire que nous sommes frères et sœurs grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. J'ai toujours rêvé d'avoir encore des frères et sœurs, mais mes parents, au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus. Donc je bénis Dieu parce qu'il m'offre ce que mes parents ne peuvent pas m'offrir. Et en plus de toutes les couleurs et de toutes les origines. Ça, c'est encore mieux. Ce qui fait de nous des frères et sœurs en Christ, et c'est pour cela que Michel a parlé de l'identité de l'épi, de notre communauté, car nous sommes le corps de Christ. Et on est à son image, on s'identifie à son image. Et cette appartenance à Dieu, à la famille adoptive, fait de nous que nous avons tout pleinement en Christ. Vous êtes d'accord ? Donc, que nous apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous offre. Et franchement, Dieu, c'est le roi des rois, il a tout. C'est ce que parlait Pierre Samuel dimanche dernier. Et ce contentement nous amène à être libres. Alors, j'ai vu la logique de ces quatre messages dimanche dernier. En fait, je devais passer avant Pierre Samuel. Et il y a eu des circonstances qui ont fait que Pierre Samuel m'a dit « Tu peux prendre ma place, je prends ta place » et tout ça. Et là, je me dis « Mais c'est quand même dingue, Seigneur. » Parce que du fait que Raymond Pierre a dit « On est créé à l'image de Dieu, ok. » Michel a parlé du fait qu'on appartient du coup à la famille de Dieu. Et PS, il parle du contentement. Et ce contentement, il nous amène à la liberté. C'est juste logique. Moi, Dieu, il m'épate. Il m'épatera de jour en jour. Et donc, mon identité en Christ me rend libre. On va prendre ce verset dans Galates 5.1 où il est écrit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Je pense que vous avez remarqué que j'aime examiner les Écritures et comprendre ce qui est vraiment réellement dit. Nous pouvons déjà dire que l'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Paul. Il revendique son apostolat parce qu'à l'époque où cette lettre a été écrite, certaines personnes remettaient en cause le fait qu'il soit apôtre et appelé de Dieu. Il est d'origine juive, c'était un pharisien. Et bien sûr, il persécutait l'Église jusqu'à qu'un jour, sur la route de Damas, il rencontre Dieu. Je le souligne, c'est important, vous verrez plus tard pourquoi. Et quand je lis ce verset, je me dois de me poser plusieurs questions pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire. De quelle liberté l'apôtre Paul parle ? À qui il parle ? Et pourquoi parle-t-il de liberté ? Ensemble, on va le découvrir. Mon premier point, c'est la liberté. Point d'interrogation. Hors de son contexte, la liberté, au sens premier, est le fait de ne pas dépendre de quelqu'un ou de ne pas être enfermé. C'est la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte et sans toute autonomie. Chacun fait ce qui lui plaît, quand il veut, où il veut et comme il veut. Et dans ce passage, il est traduit en grec par eleutheria, liberté de faire ou d'oublier ce qui a une relation avec le salut. la liberté de faire selon son plaisir. Il vient du mot eleutheros, et qui dit, dans le sens civil, qu'il est né libre, celui qui n'est pas un esclave, celui qui cesse d'être un esclave, qui est libéré et affranchi. Dans le sens éthique, libre du joug de la loi de Moïse. Et dans son contexte, le livre de Galates est une lettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, écrite par Paul. Dans Galates 6, 11, il est marqué « Voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Elle a été écrite pour les églises de Galatie. Donc, elle ne parlait pas à tout le monde. Elle parlait aux églises de Galatie, puisque dans Galates 5, 13, est marqué « Mes frères et sœurs ». Les chrétiens, donc, étaient déjà convertis. Et là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Les églises de ce temps de Galatie, n'étaient pas les mêmes églises qu'on voit aujourd'hui. C'était comme des églises de maisons. Ils se regroupaient dans les maisons et ils partageaient en fait ces lettres ensemble. Ils se faisaient passer de chrétien en chrétien. Qu'est-ce que vivaient les églises de Galatie ? On découvre que certains croyants se sont détournés de l'évangile de vérité. Paul leur avait apporté, lors de son premier voyage, l'évangile qui libère de la loi, des rituels que les judaïsants pratiquaient. Alors les judaïsants, juste pour vous dire, c'est un parti juif qui voulait revenir à la pratique de la loi. Ces judaïsants voulaient que les chrétiens soient de nouveau sous l'esclavage de la loi. Ils sont donc entrés dans les églises, on semait le doute, chez les chrétiens de Galatie. À la suite de cela, plusieurs se sont détournés de l'évangile dont prêchait Paul. Et ils se remettaient sous le joug de la loi de Moïse et d'une nouvelle servitude, à savoir la pratique de la circoncision et de tous les rites juifs. Là, il est né quelque part le légalisme. Et Paul ne voulait pas cela. Le mot légalisme n'est pas utilisé dans la Bible. C'est une pratique qui met l'accent sur un ensemble de lois et de règles visant le salut et la croissance spirituelle. C'est-à-dire que tu es sauvé en pratiquant toute la loi. C'est la raison pour laquelle les légalistes maintiennent et exigent une adhésion stricte et totale à ces règles. Et sur le plan de l'évangile, c'est une position qui est opposée à la grâce. Avant sa conversion, Paul, il vivait en esclavage sous la loi, il essayait de la pratiquer trait pour trait. Et donc il pouvait comprendre ces gens qui essayaient justement d'imposer. Il l'a vécu, donc il peut en témoigner. Quand Paul parcourait la Galatie, il parlait du fait que Christ nous a rendus libres, libres de la loi de Moïse, de la loi du péché pour que nous connaissions et vivions la vraie liberté, c'est-à-dire celle de ne plus pratiquer la loi, ni les œuvres ou les désirs de la chair, mais d'être au service de nos frères et sœurs en Christ. Galates 5, 13 à 14, il est écrit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme... » Amen, vous suivez, ça va, vous êtes encore là. Nous savons donc que la bonne définition du mot liberté dans ce passage est d'être libre de la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi et les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Éphésiens 2, 9 nous dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se sauver. Quand on réfléchit, par moments je me dis, ok, la liberté c'est normalement je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, je peux aller là-bas, je vais là-bas. Et là, je me dis, quand j'accepte Dieu, je me mets quand même sous son autorité et sous sa volonté. Ça peut paraître paradoxal, contradictoire. Mais en fait, avec Dieu, on est libre. Mais la question est, libre de quoi ? Mon deuxième point, c'est libre de quoi? Il est bon de savoir que Dieu nous aime. Vous le savez, dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, donc il nous a tant aimés. » Dieu nous aime, c'est une certitude. Et quand on aime une personne, on ne la tient pas prisonnière. Dieu nous laisse libre de choisir ou pas. Dieu nous laisse libre de choisir. Deutéronome 30,15 dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. » Dans Jérémie 21,8, il est écrit « Tu diras à ce peuple, voici ce que dit l'Éternel, je vous donne le choix. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. » Dieu ne s'impose pas. Il désire que nous le suivions par amour et par choix, et pas par contrainte. Il n'est pas un dictateur, mais un père d'amour. Même si ce choix est une question de vie ou de mort, et moi là je me dis, pouh, Seigneur. Je pense que les parents, si, quand on sait que l'enfant il va se faire mal ou que ce qu'il va faire c'est pas bien pour lui, on a envie de juste le retenir. Et là, même si c'est un choix et une question de vie ou de mort, Dieu nous laisse libres de faire notre propre choix, de prendre notre décision. Il veut que nous en soyons pleinement conscients et souhaite que nous choisissions tous la vie. Il souhaite que nous choisissions tous la vie. Dans Matthieu 19, il nous est parlé de l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme riche va voir Jésus et lui demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être sauvé. Jésus lui dit, respecte tous les commandements. Il commence à lui citer les commandements et le jeune homme riche, il dit, mais tout ça, je l'applique, je le fais. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il était lié dans son cœur. Jésus lui a expliqué le chemin à suivre. Il lui a expliqué ce qu'il fallait faire, mais le choix dépendait du jeune homme. Nous avons tous expérimenté et nous expérimentons encore le fait de se retrouver devant un choix à faire, connaissant la volonté de Dieu. Dieu te met à cœur, il faut que tu démissionnes, tu es dans la fonction publique, c'est ce qui m'est arrivé. Tu es dans la fonction publique, il démissionne, Dieu vraiment te met à cœur de démissionner. Mon père, il ne voulait pas. Ou Dieu te met à cœur, reste dans cette société où tous tes collègues t'en veulent, où c'est vraiment, tu vis limite le harcèlement ou quoi, mais Dieu te demande de rester quand même. On a tous des choix à faire, le choix d'un conjoint, d'une école, d'un métier. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a une personne qui, je discutais avec cette personne et elle me dit, mais punaise, c'est dur de choisir, j'aimerais bien qu'on choisisse à ma place. Des fois, c'est pratique de choisir à sa place, mais sincèrement, j'ai entendu aussi des fois quand on dit « Oui, Dieu m'a mis à cœur cette femme et tout, machin, et ça », et puis après dire au Seigneur « T'as vu la femme que tu m'as mise à côté de moi ? Oh Seigneur, t'as vu le boulot que tu m'as dit de choisir ?» À aucun moment, Dieu fera du forcing. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes mûrs. Il veut nous responsabiliser. Il veut nous donner la possibilité de choisir. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le témoignage d'Evelyne, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la fête des mères, elle disait « Faisons des hommes et des femmes ». Et en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est ne pas faire de nous des pantins où à chaque fois il nous guide, limite c'est tais-toi et avance. Non, il veut que nous faisons notre propre choix, oui, à la lumière de sa parole. Il veut nous rendre matures, il veut nous rendre des adultes. Oui, je suis libre de suivre Dieu ou pas, de grandir spirituellement ou pas, de donner ou de garder, de parler ou parfois de me taire. Il y a tellement de choix Et Dieu nous permet de faire ces choix, comme je le disais tout à l'heure, à la lumière de sa parole. Peut-être que certains se disent, non mais, le verset que tu as lu tout à l'heure, je place devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. Ouais, choisis entre la vie et la mort. Qui c'est qui a envie de choisir la mort? Sincèrement. Mais quand on lit la Bible, quand on apprend à découvrir Dieu et ce que fait le diable, il n'y a pas photo, vous êtes d'accord avec moi? Je préfère de loin obéir à Dieu et vivre heureuse et libre. Car Dieu sait tout. Dieu peut tout. Et il peut me guider. Vous savez, j'étais en train de penser, c'est un peu comme... on rigole des blagues de Ikea quand il y a les meubles et que des fois les hommes, ils ne veulent pas suivre le plan, ils essaient de construire le meuble. Mais ça finit par faire autre chose que le meuble. Mais c'est un peu comme, comme aussi si je construisais une maison sans plan. Je suis arrivée à construire étant petite des cabanes, mais ça s'arrêtait à quatre murs. Quoi. Enfin, quatre... Mais là, construire une maison sans plan. Ben, imaginez que la maison, c'est votre vie. Et le plan, c'est la parole de Dieu. Et on en a besoin. On en a besoin pour ne pas finir tordu ou pour ne pas que ça s'écroule au bout de deux semaines. Alors je suis libre de choisir, mais je suis libre aussi du péché et de son pouvoir. La Bible nous raconte que Dieu créa le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Il a tout préparé pour notre arrivée. Bien sûr, il y a le mal qui s'y est mis ici. Quand dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné une seule consigne à Adam, celle de ne pas manger de l'arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chose que Adam et Ève n'ont pas respectée. Ils ont manqué le but, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Du coup, cela a engendré une séparation entre Dieu et les hommes. L'être humain se retrouve impur, et de ce fait, le fait que nous ne pouvons plus nous présenter devant Dieu comme il le faisait avant. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Et donc, nous avons tous le gène du péché en nous. Catastrophe. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça plombe un peu. Et je me dis « Punaise, ça coupe la respiration. Vite, vite, de l'air. » Heureusement que le verset ne s'arrête pas là. Merci Seigneur. Il est écrit « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Dieu a offert son Fils unique pour que chacun de nous puisse être libre du péché. Jean 8, 36 dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Je ne sais pas si vous connaissez le chant « Libéré, il m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché, de son pouvoir, gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. » Amen. Jésus m'a réellement libéré du péché et de son pouvoir. Amen. Oui, nous avons le gène du péché en nous, ok. Mais cela ne veut pas dire que je suis asservie au péché. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon libérateur, le péché, oui, aussi peut nous asservir si on le laisse rentrer, nous contrôler et nous dominer. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous libère du péché et de son pouvoir. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Mon identité en Christ me rend libre face au péché. Moi, je suis soulagée. Je suis soulagée. Parce que je me rappelle quand je faisais des bêtises et quand j'étais enfant, et punaise, si mes parents le découvraient, vous savez, vous avez toujours peur de dire « Mais tu sais, j'ai fait une bêtise, mais en fait, c'est pas ma faute. » Et là, Je me sens libre du péché parce que Jésus-Christ a payé pour moi. C'est énorme. Alors je suis libre, libre de choisir, libre du péché et de son pouvoir, et libre de moi. Qui est né en France ? Ok. Qui a été élevé avec ses deux parents ? Ok, une bonne majorité. Qui est né avant 1950 ? Les jeunes. Je ne vais pas vous croire. Vous êtes d'accord avec moi que quand on se regarde, on est tous différents ? On est né chacun dans un contexte familial différent. On est né dans des régions différentes. Nous avons été éduqués d'une manière différente. Nous sommes allés dans des écoles différentes. Nous avons pratiqué pour certains des métiers différents. Et nous avons fréquenté des personnes différentes, des amis différents. En bref, tout cela nous a formés, déformés, voire reformés. Vous avez suivi ? Formés, déformés, reformés. Et quand je suis allée à l'école biblique, j'avais mes principes. J'étais éduquée comme ça, voilà. Le mariage, ça doit se passer comme ça. Quand une décision, ça vient de Dieu, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme... Et c'était pour tout le monde pareil. J'avais les principes. Et au fur et à mesure que j'étudiais la Bible et tout, et puis le contact avec les uns et les autres en collectivité, j'avais l'impression que Dieu, à chaque fois, il me disait « Non, 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 là, tu t'es trompé. Non, 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 mais là, lis bien. Là. Non, 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 mais là, j'ai pas, Seigneur. » Et vous savez, quand vous êtes construit comme des protections, en fait, comme un cadre où vous êtes bien dedans et tout, et que tout ça tombe. Comme si vous vous retrouvez en haut d'une montagne et qu'il y a le vent, là, d'un coup. Mais c'est pas le petit vent, c'est le Mistral et tout ça. Et d'un coup, tu... Waouh ! Mais en fait, je m'étais construite sur des choses que je pensais être justes, mais qui sont fausses. Ésaïe 55:8 nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ça, c'est l'Éternel qui le déclare. Ouais, ok. Libre du fait que mes conceptions que je me suis faites ne sont pas forcément réelles. Libre de moi veut aussi dire le lâcher prise. Je souhaite un jour faire le saut en parachute. Là, il y aura du lâcher prise. Mais je vous assure que le saut en parachute, on peut le faire tous les jours avec Dieu. Lâcher prise. Proverbe 19:21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Et franchement, vaut mieux que ce soit le plan de l'Éternel. Vaut mieux que ce soit lui. Libre de moi, libre de mes mauvaises conceptions, de mon envie de tout vouloir gérer pour moi-même, par moi-même, pardon. Libre de la mauvaise image de moi. Libre de me comparer aux autres. Je vais vous raconter un témoignage. Alors, il n'y a pas les ados, parce que là, je pense qu'ils pourraient me comprendre, mais je pense que les jeunes, il n'y a pas longtemps, vous étiez ados. Et puis les moins jeunes aussi, il n'y a pas longtemps, vous étiez ados. Et il y a la puberté qui arrive. Et en fait, moi, ça, elle m'a marquée. Elle m'a marquée, j'avais des plaques rouges là, c'était, voilà. Avec mon frère, on s'appelait calculette ou ordinateur, parce que sur la calculette, il n'y avait pas assez de touches, et ça ne faisait pas pareil que... Et donc, pour vous dire à quel état j'étais, et je ne m'aimais pas, c'était horrible. Au collège, il y a même un gars, j'étais avec une amie et tout ça, et donc il fait la bise à mon amie, et puis il me regarde, il dit « Non, toi, non, je ne te fais pas la bise, parce que tu comprends, wow, ça fait mal quand même. » Et donc, ce qui arrive, c'est que ben, je ne m'aimais pas. Et même mon reflet dans le miroir, c'était pas possible de le voir, quoi. Je ne m'aimais pas du tout, voilà, mon image, ma photo, quoi que ce soit, je n'aimais pas. Et un jour, dans la lecture de la parole de Dieu, je tombe sur le verset, un psaume de David, dans le 139, verset 14, qui dit « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et en fait, vous savez, les deux lettres « si ». Je me suis dit « Ouais, non, mais lui, il dit ça, c'est sûr, c'était un bel homme, David, quoi. » Moi, Seigneur, je ne peux pas le... Et... Il m'avait tellement marqué ce verset que j'arrêtais pas de me le répéter. Je vous assure, devant le miroir, je me le répétais. Je me forçais à me regarder dans le miroir et tout. À un moment, ça faisait rire mon frère. Il dit « Non, mais toi, j'écoute, tais-toi, j'ai besoin de ça. » Je me suis accrochée à ce verset. Il dit « Je te loue, Éternel, je suis une créature si merveilleuse. » Et au fond de moi, Dieu a fait un travail et je suis arrivée à m'aimer. Parce qu'il m'a redonné mon identité. Parce qu'au fur et à mesure, il me dit, mais attends, t'es mon enfant, t'es pas n'importe qui. Tu es mon enfant, je t'ai créé à mon image. Amen. Libre de mon passé, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé, il laisse des traces, on est d'accord, il laisse des cicatrices. Mais Dieu te rend libre de tout ça. Dieu te rend libre de tout ça. Mes pratiques anciennes sont changées parce que Dieu te renouvelle. Mais aussi ma conception de moi est changée. Si avant des personnes te disaient que t'es nul, mais va regarder dans la Bible ce que Dieu dit de toi, quoi. Va regarder dans la Bible ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qui peut être un frein à vivre cette liberté? On a tendance à dire, ben, la première des choses, on pense au diable. Neil Anderson a écrit dans son livre Le Libérateur, que je vous conseille, « Vous êtes libre en Christ, mais vous passerez complètement à côté de la victoire si le diable parvient à vous persuader que vous n'êtes rien de plus que le produit de votre passé rongé par le péché. De même, Satan ne peut absolument rien contre votre position en Christ. Mais s'il parvient à vous faire croire que ce que dit l'Écriture n'est pas vrai, vous vivrez confronté à ce mensonge. Les hommes sont esclaves des mensonges qu'ils croient. C'est bien pour cela que Jésus a dit dans Jean 9,32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. On fait un petit rappel de l'histoire de Job. Vous connaissez Job? Il a vécu plusieurs épreuves. Quand Dieu s'est réuni avec les anges, Satan arrive. Et il demande à Dieu de lui laisser éprouver Job. Et moi, il y a quelque chose qui me marque, mais vraiment quelque chose d'incroyable. Job 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Ok. Seulement, et ce mot « seulement » a de l'importance, « seulement » ne porte pas la main sur lui. Est-ce que vous captez là? Parce que moi, depuis, oh! Attends, Dieu, tu lui dis « ok ». Ce qui veut dire qu'en fait, Satan, il ne fait pas ce qu'il veut. Ce qui veut dire, c'est qu'il fait ce que Dieu lui permet de faire. Ne donnons pas plus d'importance à Satan. Ne lui donnons pas plus de pouvoir que ce qu'il n'a pas. Il est lié. Il est condamné. Jésus, à la croix, il l'a vaincu. Amen. Vous savez, à l'origine, au commencement, comme je vous disais tout à l'heure, quand Dieu a créé Adam et Ève, nous on est arrivés bien plus tard, c'est pour que Adam domine sur les animaux. Mais quand Adam a péché, il a perdu sa position d'autorité. Et bien évidemment, c'est le diable qui l'a prise. Comme il est écrit dans la parole, il est devenu le prince de ce monde. Satan a régné de la chute de l'homme jusqu'au moment de la croix, quand Jésus s'est offert à la croix. Quand il est mort, qu'il est ressuscité, il l'a fait pour détruire toutes les œuvres du diable. Il l'a fait pour détruire toutes les œuvres du diable. Et cette autorité est répandue sur tous les croyants. Pour qu'à notre tour, ils poursuivent l'œuvre que Jésus a commencée. Et vous savez c'est quoi cette œuvre? C'est de détruire les œuvres du diable. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Oui, Satan cherche à nous tenter, à nous déstabiliser, à nous perturber. Mais celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est contre nous. Si le diable vient vous tenter, vous savez quoi? Rappelez-lui la fin, sa fin à lui. En Christ, vous êtes plus fort que lui. Alors, la question est, si le diable n'est pas un frein pour que je vive libre, qu'est-ce qui peut être un frein? Telle est la question. Jean 19, 30, il est marqué, quand Jésus, vous savez, c'est sur la croix, Jésus est crucifié, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu avait créé la terre pour nous accueillir. Il nous a créés à son image. Le mal est venu gâcher cette belle œuvre, mais Dieu a donné son seul Fils unique à la croix pour enlever nos fardeaux, pour enlever ce qui nous écrasait, ce qui pesait sur nos épaules, pour enlever tous nos liens. De plus, il nous a laissé le Saint-Esprit comme consolateur. Il nous a laissé sa parole pour savoir comment il faut marcher. Tout est accompli. Ouais, je suis d'accord. Mais la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de décider à ta place. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de décider à ta place. Alors le plus gros frein, c'est nous-mêmes. Le plus gros frein, c'est nous-mêmes. Et je veux vraiment que vous le réalisiez parce que souvent, vous savez, une petite expérience, c'est que je suis sortie du CP, je savais ni lire ni écrire. Et souvent, pendant des années, je me suis dit, oui, mais tu comprends, je suis sortie du CP, je savais ni lire ni écrire. Oui, j'ai dit ça jusqu'à mes 22 ans et tout ça. À un moment, je me suis posée, je dis, Anne, le CP, t'avais 7 ans. Maintenant, tu as 21 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, à toi de choisir aussi de refaire des dictées, des trucs comme ça, de continuer à apprendre et de donner l'excuse. Le plus gros frein, c'était moi. Donc on a vu que Dieu nous laisse choisir, qu'on est libre du choix, libre du péché, libre de nous-mêmes, que les freins, l'excuse du diable, elle n'est pas bonne. Mais le vrai frein, c'est nous-mêmes. Comment vivre cette liberté et comment la conserver ? Je vais vous donner quelques clés, quelques outils, quelques principes pour conserver cette liberté. Déjà d'une, c'est ta relation avec Dieu, notre relation avec Dieu. Apprends à le connaître. Prends du temps à parler avec lui. Moi, je parle, des fois on doit me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Je parle dans la voiture, je parle avec Dieu dans la voiture, je parle, de toute façon même des fois je me parle à moi toute seule. Mais je parle à Dieu tout le temps, quoi. Et même quand je suis en colère, je vous assure, je parle à Dieu. Je dis, mais Seigneur, je suis en colère, quoi. Non, mais attends, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ce qu'elle m'a fait, machin, nanana. Mais je parle à Dieu. Même quand je suis triste, et même quand j'ai péché, je parle à Dieu. Ne coupez jamais votre communion avec Dieu, c'est ce que le diable cherche à faire. D'accord? Et parfois, il est bon de faire silence et d'écouter Dieu. Et ça, il faut que tu entretiennes cette relation. Tous les jours, ta relation avec Dieu est importante. Ta relation aussi avec la parole de Dieu. Si tu veux bien construire ta maison, lis bien les plans. Reste ferme dans sa parole. J'en avais déjà parlé de rester ferme. Mémorise des versets. C'est important. Parce que quand arrive l'épreuve, le doute... Il y a des versets qui nous font du bien parce qu'on sait que Dieu est avec nous, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu nous aime. Et proclamer sa parole. Ce n'est pas forcément dire des versets en l'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas je dis un verset comme ça et tout ça. Non, c'est vraiment de réaliser les paroles et de les approprier à sa propre vie. Ta relation avec Dieu est importante, ta relation avec la parole aussi et ta relation avec toi-même. Te demande à Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Et Dieu, il se plaît à bénir, se plaît à donner, il te la donnera. Revêt l'armure de Dieu. Vous savez, il est parlé dans Éphésiens 6 de l'armure. Le casque du salut, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussure du zèle et l'épée de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais conclure là. Christ est mort pour nous libérer du péché et de son pouvoir, mais aussi de toutes sortes de règles et de lois qui ne sont pas conformes à sa parole. Il est venu pour nous rendre libres, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour pécher et pour faire n'importe quoi, de vivre selon son bon vouloir et de tomber dans l'esclavage de l'égoïsme. Parce qu'on pense que en étant libre de tout, on est vraiment libre, on est réellement libre, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'après, il y a notre ego. Il y a de dire, moi, je veux pour moi, je veux le faire pour moi, en oubliant tous ceux qui sont autour de nous. Et limite, en écrasant tous ceux qui sont autour de nous. Grâce à lui, nous sommes aptes. Grâce à lui. Moi, je trouve ça juste énorme. Dieu, il l'a tout créé parfaitement. On a manqué le but, on a désobéi. Dieu trouve une solution pour nous délivrer de notre désobéissance, de notre péché. Il donne son Fils unique sur la croix pour nous rendre libres, libres du mal qu'on a fait. Et après ça, tu ne veux pas remettre ta vie entre les mains de Dieu ? Moi, je ne peux pas, je ne peux plus vivre sans Dieu. Considérons-nous comme des enfants de Dieu. Il n'a jamais demandé qu'on soit parfait. Soyons nous-mêmes. Les autres, il y en a déjà. Vous avez chacun votre place, chacun votre importance, chacun votre utilité. Dans la famille de Dieu, dans votre famille, dans la société, vous avez chacun votre utilité. Dieu vous a créé à son image. Eh, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. On est tous enfants du roi des rois. Et on est tous libres, libres de tout ce qui peut nous tenir dans les chaînes, libres de nous-mêmes. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de monter. Elles vont prendre un chant et on va passer des versets. Mais je voudrais vraiment que ces versets, quand on va les lire, vous les appropriez. Ce n'est pas pour proclamer n'importe quoi, n'importe quand. Mais c'est vraiment pour dire oui, mon identité en Christ me rend libre. Oui, mon identité en Christ me rend enfant de Dieu. Je suis choisi. J'ai été voulu. Et Dieu a des projets pour moi. Oui, mon identité en Christ fait que j'ai une famille adoptive. On n'est plus seul. Oui, mon identité en Christ permet que j'ai tout pleinement. Que je suis content de ce que j'ai. Et oui, mon identité en Christ me libère. Jean 1,12 nous dit « Je suis enfant de Dieu ». Colossiens 1,14, il est écrit « J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés ». Romains 8, 28 dit « J'ai l'assurance que toute chose coopère à mon bien. » Dans Romains 8 encore, « Je suis libéré de toutes les charges qui pesaient contre moi. Je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui te sépare de l'amour de Dieu, je t'assure que c'est faux. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. » Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé que Dieu, qui a commencé en moi une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement. » Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un chemin. Et si tu crois que tu es trop jeune, que tu es trop âgé, ou que tu n'es pas assez, ou que tu es trop je ne sais pas quoi, c'est faux. Dieu, il a un plan pour ta vie. 1 Jean 5,18 nous dit « Je suis né de Dieu. » Et le malin, il ne peut pas me toucher. Je suis née de Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Et enfin, Jean 15, 16, j'ai été choisie, établie pour porter du fruit. On a une mission. Une mission d'être libre en Christ, de vivre cette identité en Christ et à nous, de pouvoir transmettre. Je vais demander, pendant que l'équipe de louange va prendre ce chant, vraiment que vous puissiez réaliser ces paroles du chant et que sincèrement, si vous ne les réalisez pas, ne les chantez pas. Mais que si vous les réalisez, chantez-les en croyant que ce qui est écrit, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi, hein. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Amen.